Il est midi, bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, l'Ukraine attaquée par l'armée russe. Une cinquantaine de soldats russes auraient été tués, affirme le gouvernement ukrainien. Une quarantaine de soldats ukrainiens seraient morts, ainsi qu'une dizaine de civils. Une offensive dénoncée par la communauté internationale. Les pays de l'Union européenne se réunissent ce jeudi pour un sommet exceptionnel à Bruxelles. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris sera reçu par le pape François lundi au Vatican. Sur Radio Orient, Shemseddine Hafiz met en avant la fraternité humaine contre les périls contemporains. Enfin, ces derniers jours, le président Tebboune a multiplié les rencontres avec la diaspora algérienne à l'étranger. Entretien avec Badis Kenissa, membre de l'Observatoire national de la société civile, chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Vladimir Poutine a donc annoncé une opération militaire en Ukraine, une déclaration faite à la télévision peu avant 4h du matin. La Russie dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev. De nombreux habitants de Kiev tentent de quitter la ville. Le président ukrainien a lui ordonné d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. L'armée ukrainienne affirme avoir tué une cinquantaine d'occupants russes. Une quarantaine de militaires ukrainiens ont été tués ainsi qu'une dizaine de civils ukrainiens selon un conseiller du président ukrainien. Le président Joe Biden a dénoncé l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Un sommet exceptionnel de l'Union européenne a été convoqué ce jeudi soir à Bruxelles. Selon Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. Emmanuel Macron condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. Le président français réclame un sommet de l'OTAN. Et puis en Turquie, le président Erdogan prévient Vladimir Poutine qu'il s'oppose aux atteintes de la souveraineté de l'Ukraine. Dans son discours, Vladimir Poutine s'est adressé, je cite, à ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Ils doivent savoir, a-t-il dit, que la réponse sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. La Chine ne condamne pas la Russie et appelle à faire preuve de retenue. Une rencontre aura lieu au Vatican ce lundi entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le pape François. Shemseddine Hafiz rappelle les liens qui unissent les catholiques et les musulmans, une fraternité humaine que le recteur de la Grande Mosquée de Paris veut mettre en avant dans ces temps troublés. On l'écoute.
Depuis mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, j'ai entretenu des relations avec l'Église de France et j'ai échangé avec le Saint-Père pendant toute l'année 2021. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lundi prochain, lundi 28 février, j'ai l'insigne honneur d'être reçu par Sa Sainteté le Pape, qui, je rappelle, a signé il y a 3 ans à peine, le 4 février 2019, avec le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Tayeb, la déclaration d'Abu Dhabi. Je dois dire à vos auditeurs que ce texte exceptionnel trace pour moi le plus droit chemin, le droit chemin vers ce qu'on appelle la fraternité humaine et la coexistence contre les périls contemporains, les conflits d'intolérance, la dégradation environnementale, le désemparement moral et l'idée fataliste que le monde de demain ne pourra être meilleur. Alors moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai modestement essayé de suivre ce chemin en me donnant pour mission première la reconstruction une reconstruction en profondeur avec et pour les citoyens français de confession musulmane des valeurs spirituelles, éthiques et humanistes de notre religion, l'islam. Pour moi, la fraternité dans l'unicité divine tisse des liens forts qui ne peuvent pas se rompre. Cette fraternité, elle offre aux êtres humains un chemin lumineux pour se connaître les uns les autres, membres d'une même famille humaine. La fraternité permet de bâtir la paix pour ce monde qui actuellement, nous voyons le ciel s'est assombri, notamment ici en France, avec depuis le début de la campagne présidentielle, on fixe du doigt, on pointe cette religion qui ne plaît pas, les musulmans qu'on ne veut pas considérer comme des citoyens à part entière. Et donc oui, le ciel est sombre et la parole forte du pontife, pour moi, elle est nécessaire. En ma qualité de recteur, je souhaite continuer ce travail formidable qui a débuté en 1965 par l'Église catholique à travers la déclaration de ce qu'on a appelé Nostra Aetate du Concile Vatican II qui, l'Église, à ce moment-là, voulait apaiser, reconstruire ses relations avec les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. Il est patent que cet appel à la fraternité entre les croyants de religions différentes n'a pas toujours été entendu. Et moi, j'aimerais préciser que, pour moi, il y a un distinguo entre foi et religion. La foi est notre relation avec notre Créateur, relation intime et personnelle avec Dieu, alors que la religion est celle d'approfondir cette foi, d'exprimer et d'entraîner notre foi. Et donc, ce lundi, je vais témoigner au Saint-Père combien fut très importante sa récente visite en Irak, sur cette terre d'Abraham qui est notre père à tous, celui qui a été à l'origine de ce monothéisme auquel les musulmans sont extrêmement chers, à contresens des déracinements et des désorientations de notre époque. En raison, hélas, des inquiétudes et des affrontements, le dialogue interreligieux que je propose à Sa Sainteté le Pape de rouvrir avec l'islam d'Europe, l'islam de France, car il y a des inquiétudes, des affrontements. Et donc ce dialogue interreligieux doit se faire, je l'espère, avec lucidité et sincérité contre les forces qui se multiplient et qui tentent de nous diviser. Au cours de cette campagne électorale présidentielle ici en France, nous voyons les tentatives de fracturer la société, de diviser, de monter les uns contre les autres, de créer un sentiment haineux contre notamment la religion musulmane et les musulmans. Et donc il faut être lucide. Bien évidemment que nous, en tant que musulmans, nous avons cette lucidité qui est nécessaire pour combattre l'islamisme et le terrorisme. Ces deux fléaux qui sont parvenus à faire oublier que l'islam, religion, notre religion, est avant tout une religion de paix, c'est-à-dire une guidance qui enseigne à l'homme comment surmonter les épreuves de l'existence pour mieux approfondir sa foi intérieure et chercher la vérité avec un grand V.
Le pape François, qui a toujours fait part de son combat contre le repli identitaire que vous évoquiez.
Oui, absolument. Sa Sainteté considère que le ciel est notre toit commun, que nous devons les uns et les autres se rappeler qu'au-delà de nos différences, même, je dirais, de pratiques religieuses, nous avons un même objectif, c'est de nous rapprocher le mieux de notre Créateur. Et donc, c'est un travail, si nous le faisons de manière collective, si nous pouvons nous unir parce que nous avons beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, nous avons des gens qui veulent diviser la société. Et donc ce travail, ce collectif, ne peut que prospérer, je l'espère, Inch'Allah.
Chems Eddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. Il veut mettre fin à l'apartheid. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a déclaré qu'il voulait mettre fin à la discrimination qu'Israël impose, selon lui, aux Palestiniens. Il a fait cette déclaration devant le Conseil de sécurité en arborant un masque noir portant les inscriptions en anglais « End Apartheid ». Durant ses deux derniers déplacements au Qatar et au Koweït, le président Tebboune a rencontré la diaspora algérienne. Le chef de l'État a appelé à l'union de la diaspora. Il souhaite que les Algériens du monde entier participent à l'essor économique de leur pays d'origine. Entretien avec Badis Kenissa, membre du tout nouvel Observatoire national de la société civile, chargé de la communauté nationale établie à l'étranger.
C'est l'Observatoire national de la société civile, donc comme vous venez de le souligner, c'est un organe consultatif placé auprès directement du président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune. C'est un cadre, disons, de dialogue, de concertation, de proposition, d'analyse et surtout de prospective sur toutes les questions relatives, bien évidemment, à la société civile, sa composante au sens large, notamment le tissu associatif et tous les acteurs majeurs de la société civile, et aussi œuvrer à la promotion de son action et lui donner peut-être une dynamique beaucoup plus importante en phase avec les défis, notamment celui de la reconstruction de l'Algérie nouvelle, sous de nouveaux auspices, on va dire, sous de nouvelles directions, nouveaux caps. Donc, bien évidemment, cette instance sera cette caisse de résonance qui manquait un peu à cette majorité silencieuse qui est le citoyen, qui est le peuple, ce porte-voix, afin d'être le lien direct avec, à travers le président de la République, bien évidemment, la gouvernance dans sa globalité, et être aussi en adéquation avec ses attentes, notamment ceux du peuple algérien, celui de reconstruire une Algérie autour de la société civile. J'irai plus loin, qu'elle soit au cœur du débat public, au cœur de la décision politique, au cœur aussi de la reconstruction. Faut-il le rappeler que le président de la République lui-même a été candidat au présidentiel en 2019 issu de la société civile, c'est dire qu'il accorde une très grande importance à la société civile, encore une fois, dans un contexte géopolitique, géostratégique et surtout interne, de reconstruction dans lequel nous devons renforcer cet aspect et lui donner tout l'élan, toute la dynamique qu'il faut pour y remédier, et notamment, y compris, la diaspora, la communauté nationale établie à l'étranger, qui a un rôle prépondérant à jouer, et c'est aussi le rôle de l'Observatoire aujourd'hui, celui de réfléchir sur la contribution de la communauté nationale à l'étranger aux différents programmes et activités liés, bien sûr, à la société civile, et de l'intégrer dans le processus du développement national.
Et quel sera votre rôle au sein de cet observatoire ?
Alors, je suis membre au même titre que d'autres personnes, donc chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Je suis également président donc de la commission permanente de l'Observatoire, qui est la commission de coopération internationale et de la communauté nationale établie à l'étranger. Donc, nous aurons pour lourde tâche et mission d'abord de rassembler la communauté nationale établie à l'étranger de par le monde, par cette synergie, par les forces vives qui font peut-être l'avenir de d'autres pays. Donc l'idée, c'est de recréer des passerelles de confiance, recréer des passerelles en adéquation avec leurs attentes, mais également l'attente de la mère patrie. Donc trouver des canaux de dialogue, de concertation, donc de débat, de manière de mettre à profit, je dirais, cette matière première, ce diamant brut qu'il faut façonner tous ensemble pour en faire un levier de développement dans cette équation complexe qui est celle de la reconstruction de l'Algérie dans un contexte géopolitique plus ou moins inquiétant.
Le président Tebboune s'est adressé aux diasporas algériennes à travers le monde. Les Algériens hors d'Algérie vont pouvoir contribuer à cette reconstruction dont vous parlez ?
Absolument, et c'est, je dirais, le leitmotiv un peu de l'observatoire, et notamment celui des membres, en tout cas en ma personne et toute l'équipe qui m'accompagne dans ce travail, pour encore une fois donner toute l'importance qu'il faut à la diaspora. Le président de la République l'a rappelé, vous faites bien de le souligner. Dans tous ses déplacements, il a tenu à rencontrer la diaspora dans les pays dans lesquels il s'est rendu récemment. C'est dire qu'il y a un message fort aussi pour ouvrir les bras à la diaspora, pour leur expliquer que le temps est venu de de se mettre en ordre de marche dans cette Algérie nouvelle qui compte beaucoup sur ses enfants, là où ils se trouvent, penser l'avenir, penser ensemble, en concertation, à travers cet observatoire qui sera cette caisse de résonance qui manquait peut-être aussi comme trait d'union entre les deux rives, ou même dans la diaspora là où elle se trouve, pour en faire encore une fois un levier de développement pérenne, durable, au profit de l'Algérie, encore une fois, qui en ces temps de troubles, on va dire, géopolitiques, souhaite effectivement, comme d'autres pays l'ont fait par le passé, investir, capter cette diaspora, cette matière première, encore une fois, inestimable.
Badis Kenissa, membre de l'Observatoire national de la société civile chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. 3 soldats syriens tués par des frappes israéliennes près de Damas. C'est ce qu'annonce l'agence de presse syrienne Sana. L'attaque a eu lieu près de Damas. Au Maroc, le journaliste Souleymane Raissouni, condamné en appel à 5 ans de prison pour agression sexuelle, accusation qu'il a rejetée durant son procès, estimant être poursuivi à cause de ses opinions. L'Italie, premier pays européen touché par le Covid il y a 2 ans, va mettre fin à l'état d'urgence sanitaire le 31 mars. Le Premier ministre Mario Draghi a dit qu'il souhaitait rouvrir tout le plus vite possible après plus de 2 ans de crise sanitaire. Une nouvelle journée de grève à la RATP pourrait avoir lieu le 25 mars sur l'ensemble du réseau. C'est l'appel qui a été lancé par les syndicats qui doivent encore arrêter leur position demain vendredi. Et si on en parlait à 19h et 23h comme tous les jeudis, émission consacrée au dernier numéro de la revue politique et parlementaire, se réinventer après la crise, Alexis Bachelet reçoit Olivier Babeau, professeur, président de l'Institut Sapiens, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.